Toutes. Oups.
Ah, il y a un truc spécial pour que ça descende tout seul.
Ou
que ça monte, c'est bien fait. C'est une vraie joie pour moi d'être avec vous ce matin ici, après avoir pas mal entendu parler de l'Église. La dernière fois que je suis venu à Clermont-Ferrand, c'était le jour de l'installation de votre précédent pasteur, Eric. C'était pas ce bâtiment. Et j'étais curieux de voir le travail, la foi, l'investissement que vous avez eu. Et c'est vraiment un chouette outil. Alors, je sais aussi que vous êtes passé par des vicissitudes, mais je veux croire que Dieu est plus grand que ça et qu'il va ouvrir des portes, accompagner, restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Tout était pratiquement bon dans la présentation. Je ne suis pas qu'un déj. Je suis aussi le mari de ma femme qui n'a pas pu venir ce matin parce que nous avons 3 enfants et le dernier rentre régulièrement, enfin tous les week-ends à la maison. La semaine dernière, nous n'étions pas avec lui. Elle a fait le choix de rester avec lui cette semaine. Et à vrai dire, c'est une assemblée générale de l'Abège locale. Donc c'est à Grenoble que la réunion a lieu et je ne sais pas si j'y assisterai. Je verrai, j'arriverai peut-être à la fin tout à l'heure de cette rencontre. Ça n'est pas à Lyon, mais c'est à Grenoble. Voilà, et puis oui, entre autres, puisque vous savez déjà que j'étais à Chambéry et à Nice, maintenant c'est vrai que je suis le responsable enfance et jeunesse et j'essaye d'accompagner pas les jeunes et les enfants eux-mêmes, mais leurs animateurs et animatrices, enfants, ados et jeunes, et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas là. Non, elle est partie justement à faire son service. On a organisé une formation la semaine dernière au niveau régional et vous n'avez pas pu la suivre, mais je pense que c'est prévu que vous puissiez raccrocher les wagons et que vous puissiez la faire de manière locale, m'a-t-elle dit. Rappelle-moi son prénom. Sophie, voilà, c'est ça. Voilà. Tu lances au moins la première slide. J'ai pensé, le Seigneur m'a mis avant ça, encore avant, il doit y avoir quelque chose. Ah, ça commence comme ça. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. J'ai pensé avec. Alors, moi, je bouge. Je vais avoir un souci. Désolé pour la sono et je ne sais pas s'il y a de l'enregistrement, mais peut-être que vous aurez un son qui va voyager parce que je ne tiens pas en place. Désolé. Je vais essayer de m'accrocher à la chair pour rester fixe derrière. Non, mais ce n'est pas grave, vous ne cassez pas la tête. Pour rester fixe. J'avais pensé partager avec vous. Le Seigneur m'avait mis à cœur cette prédication que j'ai intitulée « Qui es-tu ?» et avec ces sous-titres-là, « Comment te positionnes-tu face à Jésus ?» Comment te positionnes-tu quand Dieu te place dans une situation où tu dois choisir d'agir selon sa volonté ou selon ce qui t'arrange ? Ça va peut-être faire mouliner et j'avais pensé vous la présenter, cette prédication, cette méditation, de manière interactive. Vous n'avez peut-être pas souvent l'habitude d'interagir avec le prédicateur, mais si vous êtes un peu bavard et si vous n'avez pas trop de timidité au fond de vous, eh bien on va pouvoir un peu interagir ce matin autour d'un texte que nous allons lire dans quelques instants. Mais avant ça, j'avais envie de vous mettre en situation en imaginant que nous sommes un an en arrière et que nous venons juste encore, nous sommes encore un peu dans la période des grèves des agriculteurs et les routes sont vraiment compliquées. Moi, ce matin, en arrivant ici, j'ai eu la joie et le privilège de contempler la création de Dieu. Cette autoroute entre Lyon et Clermont-Ferrand est vraiment très, très jolie. Et je ne sais pas si l'année dernière, les gens qui étaient bloqués sur les autoroutes en ont profité. Mais vous imaginez que ce matin, quelqu'un vient d'arriver dans la salle et il fait le voyage entre Strasbourg et Biarritz, passe par Clermont-Ferrand et la route a été un peu longue. Il en a un peu assez là de ces embouteillages, de ces ralentissements sur la route. C'est quelqu'un d'absolument comme vous et moi. Il n'est pas forcément dans le besoin, il n'a aucune nécessité financière, il va bien. Il n'est pas particulièrement riche, c'est vraiment, il est dans la moyenne française, mais il est fatigué. Il est fatigué, il voudrait un peu de repos, il vient, il s'assoit. Et à la fin de la célébration, on le salue, hein, comme on fait naturellement. Et puis, il interpelle la présidente du culte qui va reprendre la parole et se mettre là au micro pour partager son besoin. Ce monsieur, il a juste besoin d'un peu de repos. Il voudrait une assiette. Il avait prévu d'être à Biarritz et puis en fait, il n'a pas pu y être. Et il aurait besoin juste de se restaurer. Et il demande voilà, un peu d'aide. L'hospitalité. Et puis, les règles d'hospitalité ne sont pas toutes les mêmes partout, ni en France, ni dans le monde. Comment est-ce qu'on accueille les gens? C'est une situation imprévue. Et des fois, et dans les évangiles, il y a des situations imprévues. Il y a des choses qui nous tombent dessus. Des fois, l'un ou l'autre, ou même Jésus, croise notre route. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose qui n'est pas prévu et que Jésus croise notre route? Alors, on aurait même pu prendre ce temps-là, on ne va pas le faire parce que ça prendrait vraiment trop de temps, mais imaginez que vous puissiez vous mettre en groupe de 3 ou 4 et parler sur cette situation. Quelqu'un est là, il demande d'être accueilli. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, il y en a qui commencent, c'est chouette. Allez-y. Vous lui ouvrez la porte. Alors, ce qui est bien dans ce temps qu'on va avoir, c'est qu'il y a des cas de figure, il y en a qui ne vont pas parler. Ça, c'est sûr. Il y a les gens qui ont les bonnes réponses. Ça, c'est comme à l'école du dimanche. Il y a ceux qui... C'est Jésus. On était en train de parler de Jonas, mais c'est la bonne réponse. Vous lui ouvrez la porte. Peut-être il y en a qui ne se positionnent pas, ils regardent autour, ils regardent de loin, ils ne s'engagent pas, ils ne prennent pas d'initiative parce que c'est dans leur nature d'être timide et de pas être le premier à agir. Et ils se disent au fond d'eux, de toute façon il y aura bien quelqu'un d'autre pour le faire, il y aura bien votre prénom, il y aura bien une Sylvie pour le faire. Donc on reste loin. Alors ceux-là, ils n'ont pas levé la main pour dire « Ouais, moi, je ne me positionne pas. » Mais il y en a peut-être. Peut-être que moi, j'en fais partie, d'ailleurs. Il y a ceux qui, très spontanément, vont accueillir ce monsieur en proposant un repas, voire même un coin avec un canapé en lui disant « Mais prenez un temps de repos, vous partirez plus tard. Faites la sieste si vous avez besoin. » Peut-être il y en a qui vont aller voir notre personnage en s'excusant, ils auraient bien voulu, mais vous comprenez, j'ai d'autres contraintes. Et puis voilà, on trouve des excuses et à la limite, on le fait bien savoir qu'on a des excuses pour que les autres entendent qu'on a des excuses. Peut-être il y en a qui vont le faire par devoir. Il y avait la spontanéité, le cœur ouvert, mais en fait... On est un peu tendu entre j'ai envie de le faire, mais c'est surtout parce que je dois le faire. En fait, j'ai pas trop envie de le faire, mais je le fais quand même parce que c'est un devoir. Pas trop volontaire et joyeux, mais je le fais. Ok, très bien. Il y en a peut-être qui ne voient même pas où est la question, qui ne se sentent pas concernés, qui n'ont pas cette sensibilité-là, qui ne comprennent pas, mais où est le problème ? S'il est fatigué, ben, qu'il aille dans sa voiture et qu'il dorme dans sa voiture quelques instants. Et puis, il y a suffisamment de restos et de fast-food pour qu'il trouve un truc à manger. Où est la question ? Comment est-ce qu'on réagit quand il y a une situation qui arrive là ? Alors, je vous propose la lecture d'un texte maintenant. Comment te positionnes-tu ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? La lecture d'un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 7, si vous le voulez bien. Je l'ai là, c'est vrai. Il y a des écrans partout ici. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfums. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche et c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Et Jésus lui répondit à haute voix « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. « À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » « Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. » Puis, se tournant vers la femme, il reprit. « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui donc est cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. Alors, si vous êtes un habitué de ces lieux ou voilà, d'une église ici ou ailleurs, peut-être avez-vous déjà lu ce texte, entendu des prédications dessus. Ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est de faire les portraits des deux personnages principaux. Et c'est là aussi où il va y avoir un peu une interaction et on va se demander qui suis-je, où étais-je peut-être dans cette maison ? Si c'était moi qui étais dans la maison. Alors d'abord, un portrait. C'est bizarre parce que normalement, il ne devrait pas y avoir la deuxième partie. C'est dommage parce que vous voyez la suite. Je cherche ma clé USB. Bon, c'est pas grave. Vous faites comme si la deuxième partie n'était pas là. Non, c'est pas grave. Laisse-le. On va faire avec. Dans la chronologie, pour pas que vous puissiez deviner ce qui arrive, vous ne devriez pas pouvoir lire ce qui est en bas de la page. Mais vas-y, envoie le truc. Ah, ça marche. Super. Alors, dans les versets qu'on a lus, je résume ce qu'on sait du pharisien. Le pharisien invite Jésus. En voyant ce qui se passe, il fait partie de ces gens, comme on l'illustrait tout à l'heure, qui réfléchissent silencieusement. Il se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait que cette femme mène une vie dissolue. Il y a un présupposé sur cette femme. Tout le monde sait ce qu'il y a. Il y a des fois des gens dans nos environnements où on sait ce qu'il y a dans leur vie. Simon est félicité parce que quand Jésus lui raconte son histoire, il a la bonne réponse et Jésus le valorise. C'est bien, tu as bien répondu, c'est bien Simon. Voilà ce que l'on sait de Simon. On sait aussi qu'il n'a pas respecté les règles d'hospitalité. Il n'a pas fait tout ce que la tradition orientale demandait. D'accueillir, de prendre du temps, de donner à l'invité un lieu pour être apaisé en se lavant les mains, les pieds, en versant du parfum. C'était la tradition. Il ne l'a pas fait. Et on sait aussi à la fin qu'il y avait beaucoup de monde chez Simon. Il y avait d'autres invités qui étaient là. On n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, la maison de Simon semblait assez grande pour accueillir une foule. Et il y avait du monde. Alors, Qu'est-ce que ces versets-là évoquent pour vous? Quel est le caractère de Simon? Qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est là que vous pouvez prendre la parole. C'est un bon chrétien. Un homme connu et influent. Alors voilà, très bien, il semble faire preuve d'ouverture en invitant Jésus. A priori, Jésus a eu des contacts avec les pharisiens qui n'étaient pas toujours aussi cordiaux. Mais lui ça, on n'a pas l'impression qu'il tend un piège. Pardon ? Ouais. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il tend un piège comme d'autres pharisiens avaient essayé de le faire. D'autres réflexions ? Ouais, il l'invite par curiosité, il n'a pas toutes les règles d'hospitalité, il n'arrive pas à les mettre toutes en place, peut-être que Madame Simon n'était pas là. Mais il y a un intérêt, il a envie d'en savoir plus que sur Jésus. Précédemment, il y avait un gars, Nicodème, qui aussi pharisien, a essayé d'en savoir plus sur Jésus. D'autres réflexions, d'autres idées. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Moi, j'ai mis quelques réponses après qui vont s'afficher, mais... confirmer un peu, essayer de creuser, savoir qui, est-ce qu'il est prophète, pas prophète, machin, ouais. Ça cogite. Alors je vais vous afficher un peu ce que ça a évoqué chez moi, ça va très certainement recouper des choses que vous avez dites. Il y a une certaine générosité, il invite chez lui, bon, c'est un fait. Il semble positivement curieux à l'égard de Jésus, on l'a dit, rien ne laisse supposer qu'il veut lui tendre un piège. Il loupe pourtant un certain nombre de règles d'hospitalité de l'époque. Personne n'est parfait. Il commente négativement, en silence, des murmures intérieurs. Okay. Il est encouragé à réfléchir. Jésus lui raconte cette histoire et il le lance en fait à la fin. Vas-y, réfléchis. Et il y a du monde chez lui. On va faire le même petit exercice avec la femme. Alors, est-ce que si j'appuie sur le bouton, ça marche ou est-ce que c'est toi ? Voilà. Cette femme, elle est connue dans toute la ville pour sa vie dissolue. Elle pleure, elle lave les pieds avec ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les embrasse et répand du parfum. Et à la fin, elle est pardonnée. Alors, que peut-on dire de cette femme ? Elle est téméraire, elle ose, elle a une forme de culot, hein. Elle fait des choses non conventionnelles. Elle reconnaît sa vie dissolue. Voilà, alors elle complète ce que Simon n'a pas fait. Intuitivement, elle connaît Jésus. J'ai entendu quelque chose par là. C'est une bonne chrétienne. Pardon ? J'ai pas compris. Elle s'aplatit comme une carpette. Autrement dit, elle est très humble. Elle manifeste une humilité extrême. Un amour débordant. Alors, il ne faut pas que j'aille trop loin quand même, parce qu'on est quand même timé. J'affiche ce que ça a évoqué chez moi. Bon, on a commencé avec Simon, et là, c'est une femme. Moi, j'avais noté qu'on ne sait pas son nom. Par contre, on connaît sa réputation. Sa réputation la devance quelque part. Ah oui, c'est bon. Elle est humble. C'était là. Elle tape l'incruste. Elle a du culot, on est d'accord. Elle est silencieuse, mais elle agit. Parle très peu. Elle complète, ça a été dit, ce que Simon n'a pas fait en termes de signe d'hospitalité. L'ampleur de ce qu'elle fait, le volume de parfum, le prix, se diffuse et fait parler. Ça, ce n'est pas dit dans le texte. Je suis allé un peu plus loin en mettant ça, mais je me dis, bon sang, balancer un demi-litre de parfum qui doit envoyer un, prenez votre Chanel numéro 5 à la maison, vous le videz d'un seul coup et vous sortez, je suis sûr que tout le monde, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison ? Tout le monde va en parler, mais quand Jésus va sortir, ça va faire bouger les foules. Ce qu'elle a fait va faire bouger les foules. Et on en parle encore aujourd'hui, comme le dit un autre texte. Est-ce que j'ai encore mis quelque chose ? Non. On va aborder le troisième personnage de l'histoire quand même, on ne va pas aller le louper, c'est Jésus. Que sait-on de Jésus dans cette histoire ? Il se rend donc chez ce pharisien et se met à table avec tous les invités. Il accepte une invitation, il ne refuse pas. Quand on invite Jésus, il ne refuse pas, quelle que soit la personne qu'il invite. Il raconte cette petite histoire avec ses deux débiteurs, l'un qui doit 10 fois plus que l'autre. Voilà qui est bien jugé, conclut-il. Et il fait cette morale. Toi, tu as fait ceci, elle a fait ceci, cela. Tu n'as pas, elle a. Et il conclut, tes péchés sont pardonnés. Tu es sauvé, dit-il à la femme, va en paix. Alors, troisième exercice identique. Que peut-on dire ? Alors là, c'est facile, c'est Jésus, donc on a toutes les bonnes réponses. Que peut-on dire de Jésus ? Discret et pédagogue. Juste. Respectueux. Alors j'ai envie de dire de qui ? Ou d'envers quoi ? Envers Simon ? Non-jugement, condamne pas. Il valorise la femme. Je répète derrière pour que tout le monde entende, si vous, puisque j'ai la chance d'avoir un micro. Il le mouche un peu. Ouais. Il veut la... Alors voilà, il l'amène à réfléchir. Ok, alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Il accepte les rencontres les plus inattendues, il répond à l'invitation. Il discerne où en sont les gens. Dans la réflexion silencieuse, il sait que Simon est en train de mouliner et il va le challenger, lui raconter cette petite histoire. Il mouche un peu Simon, voilà. Mais le ton de ses propos est doux. Il n'est pas agressif, il ne condamne pas, il n'est pas accusateur. Plutôt positif. Il y a un enseignement à tirer, il y a une leçon à tirer, mais c'est fait avec douceur. Il cherche à faire grandir. Voilà, donc on a les portraits de ces trois personnages. On les a bien en tête. J'avance. On en arrive presque à la conclusion. Vous avez fait le boulot. On arrive à la conclusion. Qui es-tu ? Alors, on a le choix. Il y a trois personnages. Il y en a qui se disent, OK, moi, je suis Jésus. C'est le plus simple. On va éliminer cette option-là. Entre Simon et cet inconnu, qui es-tu ? Est-ce que j'ai déjà invité Jésus chez moi ? Est-ce que Jésus me connaît par mon nom ? Alors je suis Simon. Est-ce que j'ai conscience qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas celles que Jésus aurait faites ? Ce ne sont pas des choix de vie que lui aurait fait. et j'en ai conscience. Alors peut-être que je suis cette femme. Jésus me dirait, va et ne pêche plus. Est-ce que je suis du genre à parler, à me justifier, à poser des questions pour faire voir que je sais? Alors je serais peut-être Simon. Est-ce que je suis du genre à reconnaître mes faiblesses quand je suis dans le besoin? Alors je me rapprocherai peut-être plus de cette femme. Devrais-je être plus accueillant, plus à l'écoute, ne pas parler secrètement sur les autres? Simon. Est-ce que je sais faire les choses humblement, sans trop parler, juste faire, sans me mettre en avant? La femme. Peut-on faire un clivage aussi strict? Évidemment non. On n'a pas trop envie d'être soit l'un, soit l'autre, on aimerait bien être entre les deux. C'est pas cool d'être assimilé à cette femme. Ma vie n'est pas si dissolue que ça. J'ose espérer qu'on ne me montre pas du doigt comme ça. J'ai pas envie de faire la carpette. Et j'ai peut-être pas non plus envie d'être comparé à Simon. Ok, j'ai les bonnes réponses. Je manifeste la curiosité. Mais au fond, c'est moi que Jésus reprend. C'est moi qui le conseille d'avancer de telle et telle manière. Je ne suis pas un vrai sachant, peut-être. Peut-être qu'on est un peu des deux. On a déjà invité Jésus chez nous. Il me connaît par mon nom. Mais on est conscient de ne pas avoir tout compris, de ne pas être dans les clous. Tout n'est pas limpide dans ma vie et dans mes choix. On aimerait une troisième posture, une troisième position. Celui qui est bien, celui qui a tout compris, celui qui n'a pas de reproches à se faire, qui agit parfaitement. Mais ça, c'est le rêve. Ça, c'est une utopie. Il y a une troisième position. En vérité, dans ce parcours-là, il y a aussi les autres invités. Dans l'ensemble des gens qui sont dans cette maison, il y en a beaucoup qui sont restés en spectateur, comme on disait tout à l'heure. Regarde de loin, ne se positionne pas. On est prudent, on ne se fait pas remarquer. On ne voudrait surtout pas que Jésus nous dise quelque chose. On ne prend pas position. On questionne. Mais qui est cet homme? C'est qui ce gars? Ce gars qui est capable de discerner, qui est capable de changer la vie, qui est capable de donner le conseil pile poil qu'il faut pour que j'avance. C'est qui ce gars? Mais on ne s'implique pas. On reste en arrière. Distant. Et si on reste distant trop longtemps, quelque part, j'ai envie de dire, on bénéficie pas de la grâce de Dieu. On n'est jamais en relation avec. En restant distant, on reste loin. Et on ne s'approche pas de celui qui est la vérité. Et dans un sens, Jésus fait grâce, il pardonne, et il dit à cette femme, « Va, tes péchés sont pardonnés. » Mais il ne condamne pas Simon non plus. Il lui parle avec douceur, il l'enseigne, il lui raconte cette histoire et il l'envoie avec cette réflexion. Et si Simon retient l'enseignement, il grandira. Il aura appris quelque chose et ça transformera sa vie. La femme, elle reçoit la grâce, les encouragements de Jésus. Et les autres, les spectateurs, s'ils sont restés distants, peut-être tireront-ils un enseignement pour une prochaine fois. Peut-être. Alors, toi, qui es-tu? Où es-tu dans cette maison? Je vous invite à prier.